UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Déplace-toi, même si ce n'est que pour une personne ». Et aujourd'hui, c'est Mickaël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Gwen répondra à la question « Que puis-je faire pour avoir envie d'évangéliser ?». Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Nadine nous présentera le livre de la semaine « 23 minutes en enfer » de Bill Wise. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Témoignage » dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'un homme qui a été convaincu de péché en regardant une émission sur EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Hello tout le monde !
Bonjour Aurélie !
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va,
super. Pleine forme.
Génial, prêt pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous ?
Yes.
Vous allez donner le meilleur de vous ?
Yes.
On va faire de notre mieux.
Attaquer le royaume des ténèbres, on va le défoncer.
Amen, ça me va. Un beau programme pour la semaine, c'est génial. Aujourd'hui, on parle d'évangélisation. On en a parlé la semaine dernière avec nos invités Franck et Liliana Alexandre. C'était des super émissions et aujourd'hui, on vient donner le dernier coup de marteau pour enfoncer le clou dans ce thème important pour que ça commence vraiment à porter du fruit dans la vie des téléspectateurs. Et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Chérie, le titre de ta pensée est « La valeur d'une âme ».
Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette pensée qui est vraiment importante. Quelle est la valeur d'une âme ? La valeur d'une âme n'a pas de prix. Une âme, une vie n'a pas de prix. Et vous savez, un tableau de Picasso vaut environ 150 millions de dollars américains. Une Ferrari vaut environ 250 000 euros. Même l'entreprise Facebook, on a réussi à lui donner une valeur à plus de 400 milliards de dollars. Mais ce qui est étonnant de voir, c'est que presque tout sur Terre a un prix. On a mis une valeur, une étiquette, un coût sur chaque chose, mais ni l'homme, ni les gouvernements n'ont réussi à donner une valeur à une âme, car une âme n'a pas de prix. Mmh. Dites-moi, quelle valeur, quel argent pourrait-on donner en échange de la vie de ma femme ? Quelle valeur, quel argent pourrait-on donner en échange de la vie de ma fille Sophia ou de mon fils Louis ? Je vous le dis, tout l'or du monde ne suffirait pas à acheter le prix de la vie d'un homme, parce qu'une âme n'a pas de prix. Mmh. Vous savez, Jésus a dit dans Luc au chapitre 16, il raconte l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. On voit que le pauvre Lazare meurt et il est amené, porté par les anges, son âme est portée par les anges dans un endroit paisible qui représente le paradis, au-dessus. Et l'homme riche, lui, il meurt, il est enseveli et son âme est apportée par les anges dans un endroit de terreur, un endroit de souffrance en bas, appelé l'enfer. Et cet homme riche souffrait tellement dans les flammes de l'enfer qu'il pouvait voir en haut le pauvre Lazare qui lui était bien au paradis paisible. Et il dit dans Luc au chapitre 16, verset 24, il leva ses yeux et dit « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il supplia aussi qu'en fait, que Dieu envoie un message à sa famille, à ses cinq frères qui étaient encore vivants sur terre, pour leur dire, écoutez, ce message, c'est la vérité, il faut vous repentir, car il y a réellement une vie après la mort. Mmh. Et cet endroit dans lequel je me trouve est un lieu de tourment. Dites à mes frères de se repentir, de faire la paix avec Dieu afin qu'ils ne viennent pas là. Et on voit que cet homme riche avait changé de perspective. Il était prêt à tout sacrifier pour sauver l'âme de ses frères, car il a réalisé que la vie d'une âme n'a pas de prix. Mmh. Et il fallait sauver l'âme de l'enfer. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle au paradis. Et j'aimerais vous parler d'une expérience bouleversante qui a marqué ma vie. Je ne l'oublierai jamais. J'étais encore à Paris il y a quelques années et je priais régulièrement les soirs, demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'amour, de la compassion pour les perdus, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi. Et je me souviens de ce fameux soir où j'étais au téléphone avec un ami et j'arrivais dans mon appartement. Et là, alors que je lui parlais de choses et d'autres, de business, de l'entreprise, tout à coup, la présence de Dieu est venue sur moi et j'ai été saisi, le téléphone a volé, je suis tombé par terre. Ça m'a paru passer pour des heures de temps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je souffrais intensément au point que je disais « Seigneur, retire-toi de moi, arrête s'il te plaît, c'est trop insupportable ». Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Mais ce que je pourrais exprimer cela comme cela, c'est comme si Dieu avait enlevé mon cœur et m'avait donné son cœur à la place de mon cœur et je ressentais ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et je peux vous dire, cette souffrance qu'il y avait dans le cœur de Dieu était insupportable. Je voyais la souffrance que Dieu avait pour chaque âme qui va en enfer, qui souffre dans ce lieu de tourment. Et le cœur du Père souffrait énormément. Et là, je me suis réveillé même le lendemain matin et j'ai rien qu'à repenser à ce que j'avais vécu, je pleurais encore et ça a duré toute la journée, telle une cicatrice dans mon âme. Et je peux vous dire, ce jour-là, j'ai compris que il n'y avait rien de plus important qu'une âme. Ce jour-là, j'ai compris ce que Jésus voulait dire par « il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes ou 99 chrétiens qui n'ont pas besoin de repentance ». Ce jour-là, j'ai compris que la grande priorité de Dieu n'est pas qu'on se réunisse le dimanche matin pour le louer, mais sa plus grande priorité, c'est de sauver les âmes à tout prix qui vont en enfer. Ce jour-là, j'ai compris que je devais être prêt à sacrifier toute ma vie, ne serait-ce que pour sauver une seule âme, car une âme n'a vraiment pas de prix et ça vaut la peine d'investir tout son temps pour en sauver ne serait-ce qu'une seule. Frères et sœurs, les statistiques sont alarmantes. Chaque seconde, il y a 2 personnes dans le monde. Chaque seconde, là, 2 personnes viennent de mourir. Encore deux. Toutes les secondes, 2 personnes meurent dans le monde. Ça fait qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui meurent chaque année. Et la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, n'ont pas fait la paix avec Dieu et on sait où ils iront dans ce lieu de souffrance. Et c'est vraiment une tragédie. Frères et sœurs, n'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas, nous connaissons la vérité. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que faisons-nous? Tellement de chrétiens assistent à ce génocide spirituel sans rien faire, menant leur petite vie tranquille, paisible, allant à l'église. Frères et sœurs, c'est une réalité, je vous en supplie, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Nous devons nous lever et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ est vivant et si tu fais la paix avec Jésus, tu peux être sauvé. Si tu reçois le pardon de tes péchés, s'il te plaît, aujourd'hui je veux t'encourager, écoute-moi. Tu peux écouter cette émission et te dire, ok, ce qu'il dit c'est vrai. Et pourtant, ne pas changer ta vie pour autant, ne pas agir pour autant. Ou tu peux écouter ce qui est dit aujourd'hui dans cette émission et réellement changer. Commencer à investir ton temps dans la prière, dans des actions, dans le fait de témoigner, dans le fait d'entreprendre des choses avec les talents que Dieu t'a donnés pour sauver ne serait-ce qu'une âme, pour en sauver quelques-unes de ta vie. Et j'aimerais t'encourager, pose-toi cette question. Pense aux membres de ta famille, à tes amis, à tes collègues, qui pourrait se retrouver bientôt comme l'homme riche, dans cet endroit de souffrance éternelle, dans ces flammes, avec une souffrance pour l'éternité. Il pourrait regarder vers le haut et te voir, toi, tranquillement, au paradis, et il te dirait, mais pourquoi, alors que tu étais sur terre, pourquoi ne m'as-tu pas interpellé? Pourquoi ne m'as-tu pas saisi? Pourquoi ne m'as-tu pas harcelé? Pourquoi ne m'as-tu pas sans cesse répéter le message « Jésus est vivant, c'est une réalité, il y a une vie après la mort. Pourquoi n'as-tu pas fléchi le genou tous les jours pour que mes yeux s'ouvrent et que je connaisse cette vérité et que je me détourne de mes péchés, que je me tourne vers Dieu et que je lui donne ma vie ?» Frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. C'est une réalité. Et si Dieu t'a laissé sur terre et ne t'a pas repris le jour où tu as accepté Jésus comme sauveur personnel dans ta vie, c'est parce qu'il y a un but pour toi et il t'a laissé sur cette terre pour que tu puisses être un témoin de Jésus-Christ autour de toi. Alors lève-toi avec cette force que tu as, change ton emploi du temps et fais du salut des âmes ta priorité.
Amen. Amen. Oui, c'est une priorité, effectivement. Et quand je lisais ta pensée, je me disais, mais on ne prêche pas souvent cette histoire de l'homme riche et de Lazare. On n'entend pas beaucoup prêcher sur ce sujet-là. Même dans des messages sur l'évangélisation où on encourage les gens à l'évangélisation, c'est pas un message qui est très, très populaire. Pourtant, qu'est-ce qu'il est puissant, ce passage ? Il démontre une réalité qui est vraiment ignorée de beaucoup de personnes. et il donne un aperçu à la fois pour nous de ce qu'on pourra peut-être ressentir après en se disant « j'aurais dû parler à cette personne, j'aurais dû lui dire » et à la fois pour ceux qui n'ont pas écouté ou à qui simplement on n'aura pas prêché l'évangile, qui diront « mais si j'avais su, allez envoyer un message à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail, allez leur dire la nécessité d'accepter le Seigneur comme leur sauveur ». Et c'est tellement important. Et c'est vrai que c'est un message qui n'est pas populaire parce que ça implique de sortir, ça implique de faire l'effort, d'aller annoncer l'évangile, ça implique de sortir de sa zone de confort. On est bien, on est chez nous, et puis tout à coup, il faut aller parler. Puis il y a des gens qui vont nous claquer la porte au nez. Il y a des gens qui ne seront pas intéressés par ce qu'on va dire. Puis bon, finalement, on dilue peu à peu le message, puis on arrête de le prêcher.
Oui, ça implique de s'engager, en fait. Mm-hmm. Et trop peu de personnes aiment à s'engager quand ils ne voient pas leur intérêt direct. Mm. Mais ce qu'il y a vraiment à comprendre, c'est que quand on a donné notre vie au Seigneur, il y a cette parole que Jésus a dit. Les dernières paroles d'une personne qui doit partir sont vraiment importantes. Mm. Et Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est comme c'est des paroles que Jésus nous a laissées, en fait. Mm-hmm. C'est comme un héritage qu'il nous a laissé. Et notre héritage, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Quand on pense que c'est par notre propre force, on a du mal. Parce qu'en fait, c'est vrai, de ta propre force, si tu te sens rejeté, si tu vois que, OK, ton message ne va pas passer, mm-hmm. tu as du mal. Mais quand tu réalises que derrière, il y a vraiment un ordre divin, il y a, c'est Jésus lui-même qui t'envoie et il ne t'envoie pas dépourvu. Mais là, tu sais qu'il y a quelque chose à faire. Et trop de gens aussi pensent que aller, c'est juste sortir dans les rues. Mmh. C'est un moyen. Mais il y a tellement de choses à faire. Si on regarde juste dans la société, les écoles où les gens aiment envoyer leurs enfants, mais c'est des écoles où les propriétaires, généralement, sont des païens. C'est des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mmh. Quand on regarde même les choses qui attirent, les sacs de marque que les gens veulent porter, ce n'est pas toujours des chrétiens. Mmh. Des parfums que les gens veulent se mettre, c'est pas les chrétiens qui le font. Et on réalise, en fait, comme ça, que beaucoup de personnes ont gagné du terrain dans la société et que les chrétiens n'agissent pas. Pourquoi? Parce que la mentalité de gagner le royaume avec mes dons, avec mes talents, comme Michael disait, de s'investir pour les âmes, on ne l'a pas toujours. Mmh. Mais ça, c'est des choses qu'on doit aller chercher, c'est des choses pour lesquelles on doit soupirer auprès du Seigneur. Et si c'est juste pour une personne, ça vaut la peine.
Oui, vraiment. Notre verset du jour dit dans Matthieu 8, 14, pardon, « Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Juste un seul, c'est suffisant, un seul. Mm-hmm. Et quand on pense à l'œuvre de la croix, Jésus est allé à la croix pour l'humanité tout entière. Mm-hmm. Pas juste pour moi, mm-hmm. pas juste pour toi, pour l'humanité tout entière. Et si on n'a pas suffisamment de compassion pour aller prêcher l'évangile à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, aux inconnus, ben faisons-le au moins pour que l'œuvre de la croix soit pleinement efficace et pleinement utile. J'imagine, si je fais un énorme sacrifice pour mes enfants, toute ma vie, je me sacrifie pour eux, pour qu'ils aient un bon héritage, pour qu'ils aient une bonne éducation, pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, et qu'une fois grands, ils ignorent complètement, ils refusent leur héritage, ils refusent d'aller faire des études et puis, je sais pas, ils décident de vivre dans la rue et de ne rien faire de leur vie. Je vais me dire, mais le prix que j'ai payé toute ma vie, je me suis sacrifiée pour eux et eux, ils gaspillent ça. Donc, juste pour l'œuvre de la croix, juste pour ça, c'est suffisant. Si on n'est pas capable d'avoir la compassion pour les perdus, on peut au moins le faire pour l'œuvre de la croix, pour Jésus-Christ qu'il a fait à la croix, pour l'humanité toute entière, pas juste pour moi, pour mon propre confort personnel.
Mais déjà, le message de l'évangile, quand on l'apporte, comme tu dis, l'œuvre de la croix, c'est déjà la solution. Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un, oui, il y a le péché, il y a la condamnation, mais il y a une solution. C'est pas comme si on présente quelque chose qui est à moitié fait. Mm-hmm. On présente une œuvre qui est accomplie. Et comme Michael l'a dit dans sa pensée, dans le passage de l'homme riche et de Lazare, c'est la réalité, en fait, de l'enfer qui est là. Mm-hmm. Et je crois que même les chrétiens, il y en a qui sont chrétiens, mais qui ont soit ne croit pas en l'enfer vraiment tel qu'il est, ou on dilue en fait ses pensées, parce qu'on dit que Dieu est bon, et puis on dilue en fait la réalité de l'enfer. Ouais. Mais l'enfer existe, et juste par compassion des gens, On devrait vraiment avoir ce fardeau dans notre cœur d'apporter la parole de Dieu aux gens. Parce que comme il a dit, la vie humaine n'a pas de valeur. Mmh. Une fois que la vie sur terre se termine, une fois que les yeux sont fermés, une fois que la vie a été retirée de la personne, ben son âme, elle va dans un endroit de perdition éternelle. Mmh. Et quand on réalise cela, vraiment juste en tant que chrétien, de prendre conscience que vraiment, ce serait égoïste. C'est comme si... C'est parce qu'on n'a pas vraiment cette conscience-là. C'est comme si tu vois ton enfant traverser la rue et il y a des voitures qui viennent. Quel parent va laisser son enfant traverser? N'importe qui va intervenir. Mais c'est de la même manière. Quand on ne parle pas de Dieu autour de nous, on sait très bien que ces personnes, leur âme va aller dans un endroit de souffrance éternelle où est-ce qu'ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Mais quand on a conscience de ça, on se doit de parler. Et comme tu dis, à l'œuvre de la croix, c'est le Seigneur qui vient, qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit qui convainc. On ne présente pas un travail à moitié, on présente un problème. Oui, vous avez péché, mais il y a une solution qui est Jésus-Christ, tout simplement.
Je crois que les chrétiens aujourd'hui ont vraiment besoin de se repentir. Les croyants ont vraiment besoin de se repentir. Et aujourd'hui, on voit que dans l'Église, en fait, les croyants courent après leur héritage et se disent que lorsque j'aurai manifesté l'héritage de Jésus-Christ dans ma vie, lorsqu'on verra le succès, lorsqu'on verra la faveur, lorsqu'on verra que Dieu est avec moi, à ce moment-là, j'évangéliserai. Et ça, c'est un mensonge. Parce que les chrétiens vont passer toute leur vie à faire ça. Toute leur vie à s'engraisser spirituellement, s'engraisser matériellement, à toujours courir après ces choses-là pour s'assurer eux-mêmes que Dieu est avec eux. Et finalement, ils ne vont jamais évangéliser. L'Église a sincèrement besoin de se repentir et de revenir à Dieu. Et la Bible dit que le plus grand des commandements, tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et Jésus va dire, et voici un commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu as été sauvé, lorsque Jésus t'a arraché de cette vie de ténèbres. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est considérer ce que Jésus a fait dans ta vie et ce que tu veux reproduire dans la vie des autres. Parce que tu sais d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Moi, je sais d'où est-ce que je viens. Si aujourd'hui, j'avais été sans Dieu, si aujourd'hui, j'avais pas été avec ce groupe de jeunes, avec Mickaël, avec Alain Patrick, Jérémy, tout ça, aujourd'hui, ma vie, ce serait un désastre et je serais certainement mort ou peut-être même que, de toute façon, je serais voué à une mort éternelle. L'Église a sincèrement besoin de se repentir et de changer. Il faut changer. Il faut arrêter d'être comme ça, de continuer comme il parlait, Mickaël, tout à l'heure, croire que c'est tous les dimanches, on va aller à l'église chanter des beaux cantiques, etc. Notre lampe allumée, c'est une lampe pour les autres. Lorsque Jésus parle de... J'ai encore un peu de temps. Lorsque Jésus parle de... Lorsque l'époux vient et que ces femmes avaient de l'huile, mais cette huile, elle est pour les autres. C'est de ça qu'il est question. C'est pas d'être une huile pour se couvrir, une huile pour être à l'image de Christ, pour être glorieux, pour être marcher dans cette faveur, etc. Aujourd'hui, on n'entend que ça dans l'Église. Comment posséder ton héritage? Comment élargir l'espace de ta propre tente? Élargir l'espace d'une tente, c'est pour accueillir du monde. C'est pour accueillir ceux qui se perdent. Donc aujourd'hui, vraiment, l'Église a besoin de se repentir et de regarder son propre état. Et c'est quelque chose qu'on doit faire souvent, c'est quelque chose qu'on doit prier régulièrement, on doit se tenir devant Dieu, Seigneur, change-moi, il y a des âmes qui vont en enfer, il y a des âmes qui se perdent, change-moi lorsque je suis focalisé sur ma propre vie, sur mon héritage, sur ma bénédiction, comment grandir dans tous mes dons spirituels pour ma famille, pour etc. et être vu des hommes, c'est une terrible erreur, c'est une terrible erreur et c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu c'est ça, c'est les perdus.
C'est ça.
Tu parlais de la compassion. Tout ce que Gwen vient de dire, c'est vraiment vrai. L'Église est vraiment égoïste, centrée sur elle-même. Et ce qui brise l'égoïsme, c'est l'amour. Et tu disais, si on n'a pas de compassion, on peut penser à Dieu. Par amour pour Dieu, on le fait. Mais je me souviens de ce que moi, j'ai fait. Je savais que l'amour serait mon moteur pour évangéliser, pour témoigner de Jésus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu de la compassion, de l'amour. Et quand on demande quelque chose à Dieu, il nous répond, il nous donne. Et j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas ce fardeau, cet élan d'aller vers les âmes, demandez à votre Père Céleste qui est réellement vivant et qui écoute vos prières, les entend et vous répondra, « Seigneur, donne-moi de l'amour pour les âmes. » Et ce que Dieu m'a donné après avoir fait cette prière, l'amour est né en fait de cette prise de conscience qu'il y avait l'enfer. Et c'est là qu'on va réaliser, c'est là que l'amour va être activé. On se dit oui, ils sont en danger de mort et l'enfer n'est plus prêché aujourd'hui, alors que ça devrait être l'une des choses les plus prêchées. Il n'est plus prêché. Mais c'est quoi l'enfer? Jésus nous l'a montré. Un lieu où tu te retrouves dans une flamme, en train de brûler perpétuellement, d'une souffrance absolue, sans avoir aucune fin à ça. Sur Terre, on peut prendre des médicaments. On peut soulager notre souffrance. On peut dormir. On peut avoir des moments de répit. On peut prendre de la morphine quand on souffre. Mais là, il n'y a pas de morphine. Rien. Et il y a des démons, il y a des cris, il y a des grincements de dents, il y a des larmes tout autour de nous. C'est une réalité. Le diable a voulu l'enlever de l'Église. Mais il faut qu'on la ramène dans l'Église. Parce que c'est là que l'amour va naître. Vous êtes en danger de mort. Il faut se réveiller. Et c'est ce genre de message que le Saint-Esprit veut... veut accompagner en fait aujourd'hui. Et ce message de l'enfer doit toujours être accompagné de l'amour de Dieu, bien sûr. Oui, mais c'est pas « mais Dieu vous aime ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut vous sauver aujourd'hui.
Amen.
Et quand vous, on parle, quand vous parlerez en fait de ce message, de la réalité de la vie après la mort, de ce lieu de souffrance, dites toujours aux gens « mais Dieu t'aime ». Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que tu n'as pas là. Donc vois l'amour de Dieu. Le diable voulait te prendre avec lui dans ce lieu qui a été créé pour lui et il t'amène avec lui parce que tu es devenu esclave de lui. Mais Dieu t'aime et il veut que tu deviennes esclave avec lui pour te donner la vie en abondance. Donc Dieu est venu te chercher.
Amen.
C'est ça, c'est ce message c'est d'amour.
C'est vraiment une histoire d'amour. Parce que moi, quand on me demande toujours qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur, moi je dis que c'est l'amour. C'est parce qu'il y a une personne qui ne m'a pas lâchée du tout. Et qui était là tout le temps pour me dire, tu es une servante de Dieu, Dieu t'aime. Cette personne priait pour moi. Cette personne, malgré vraiment mon mauvais comportement que j'affichais parce que j'étais dans le monde, mais cette personne n'a jamais lâché. Elle a toujours été là et moi, j'étais étonnée. Ça me surprenait. Je me disais, mais comment, après tout ce que je fais, lui, il peut toujours revenir, il peut toujours me traiter comme ça. Mais en fait, cette personne manifestait tellement d'amour pour moi que c'est ça qui m'a fait me poser des questions. Et j'ai accepté le Seigneur par la suite. Mais ça ne s'est pas fait en une fois. Donc, je veux vraiment aussi encourager les personnes qui nous regardent. C'est qu'il y a peut-être des personnes dans votre champ. Il y a des voisins, il y a des personnes à toucher. Mais ce n'est pas juste je te parle du Seigneur aujourd'hui et puis ciao, ciao, bye bye, j'ai fait ma part. Il y a un chemin à faire avec des gens. On ne peut pas juste lâcher des personnes comme ça. Il faut prier pour ces personnes, soupirer auprès du Seigneur pour ces personnes-là et revenir. Parce que cet amour-là dont Michael parlait, cet amour dont on a parlé, c'est ça qui fait la différence au final. Parce que les gens ouvrent leurs yeux et disent, mais comment c'est possible que malgré tout, cette personne revienne? Mais c'est l'amour de Christ qu'on manifeste, en fait, quand on va vers les personnes comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. Et Gwen, tu vas répondre à une question, à mon avis, que beaucoup se posent. En l'occurrence, c'est Frédéric du Canada qui nous l'a envoyé. Que puis-je faire pour avoir envie d'évangéliser? Et certains n'ont tout simplement pas envie d'évangéliser. Et c'est vrai, en fait. Bon, pourquoi est-ce que je sortirais alors que je suis bien pépère chez moi? Comment faire pour avoir envie, Gwen?
Bonjour, Frédéric. c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, qu'on peut se poser. Comment ça peut naître, cette envie? Mais là, on a déjà apporté des éléments de réponse. Mais une des choses que je voudrais dire, souvent, lorsqu'on doit faire les choses pour Dieu, on doit commencer par prier. Mais particulièrement là, je vais vous dire que ce n'est pas par là que vous devriez commencer. Vous devriez commencer en obéissant et en le faisant. Vraiment, en sortant de chez vous, en juste... L'obéissance, ce n'est pas une obéissance comme un animal va obéir. C'est une obéissance spirituelle. Lorsque Jésus a dit « Allez », il a donné ce commandement. Et à partir du moment où vous répondez à ce commandement, vous êtes dans une obéissance spirituelle. Donc, c'est la première chose à faire. C'est commencer à sortir et annoncer l'Évangile. Ça va vous coûter, ça va coûter à votre chair, ça va coûter dans votre temps, il va peut-être pleuvoir le jour où vous allez le faire, mais faites-le parce que c'est l'obéissance, c'est une réponse à ce que Jésus a demandé de faire. Et la Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et cette obéissance, elle est puissante parce que Dieu va vous donner des fruits à partir du moment où vous sortez. L'un des grands problèmes qu'on rencontre, c'est que justement, on se pose des tas de questions, on cherche des tas de réponses concernant l'évangélisation et finalement, le temps passe et le temps passe et le temps passe et chaque seconde, Michael l'a dit. Michael l'a dit, à chaque fois que vous vous posez des questions, à chaque fois que vous cherchez un nouveau livre, à chaque fois que vous voulez lire Reinhard Bonnke, ce qui est extraordinaire, Une vie en feu, je vous le conseille, ça va vous aider, etc. Mais pendant tout ce temps où vous faites ça, c'est chaque seconde qui passe et vous ne le faites pas. Donc c'est vraiment important déjà de commencer à le faire.
Même si on n'en a pas envie,
même si on n'en a pas envie, même s'il ne fait pas beau, on le fait, on sort et puis... je l'ai fait personnellement dans ma vie et Dieu m'a montré combien c'était extraordinaire. Donc il y a un dicton qui dit, et c'est pas un verset, ne cherchez pas dans la Bible, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est vrai, c'est en évangélisant qu'on devient un évangéliste. Donc évangéliser. Et puis moi, j'ai vécu ça. J'ai commencé à le faire, à répondre à cet appel de Dieu simplement, sans avoir envie, mais juste à sortir et puis témoigner. Et Dieu m'a montré à quel point j'étais utile au royaume. Dieu m'a montré à quel point c'était spirituel parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. Je vais pas en parler là, mais vraiment des expériences extraordinaires. La deuxième chose que je dirais, c'est vraiment de prier. Et ça, c'est une prière qu'il faut faire constamment. C'est une prière qu'on doit renouveler, que je continue à faire pour ma propre vie. Je sais que Michael, même s'il a vécu une visitation par rapport à ça, par rapport à l'amour de Dieu, le cœur de Dieu pour les âmes, je sais qu'il continue à le prier, à demander à Dieu de lui donner son cœur, d'avoir le même cœur, d'avoir les mêmes yeux pour voir les perdus, pour voir comment Dieu voit la vie d'un tel, comment est-ce que tu vois cette personne là-bas que je vois en train de faire ses courses, qu'est-ce que tu vois dans sa vie? Et Dieu veut nous donner son cœur. Et c'est une promesse qu'il nous a faite. Il veut nous donner, il a dit, je vous donnerai un cœur de chair à la place de votre cœur de pierre. Et ça concerne pas seulement la nouvelle naissance, ça concerne aussi les désirs de Dieu pour les âmes qui se perdent. Donc, priez et repriez cette prière. Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi tes yeux, que je puisse voir la même manière que tu vois, que je puisse voir, oui, cette réalité de l'enfer, mais que je puisse voir aussi cette réalité de la réponse que tu es pour les gens. Donc, la deuxième chose, ce serait de prier. Il y a une chose aussi qui est assez spéciale de voir dans la parole de Dieu. On voit qu'il y a un homme qui est aveugle de naissance. Oui. Il est né aveugle. Mm-hmm. Et cet homme-là, il va dire une chose qui est assez particulière. Il va dire aux pharisiens, alors qu'il va être guéri, il a dit, jamais on a entendu que quelqu'un ait guéri un aveugle de naissance. Mm-hmm. C'était lui l'aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il s'était renseigné. Mm-hmm. Il s'était renseigné sur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter une réponse? Est-ce que quelqu'un peut apporter une réponse à mon foyer qui est en train de tomber en ruine, à mon couple qui est en train de vivre des choses terribles? Il y a des gens qui se renseignent. Il y a des gens qui sont en train de chercher des réponses. On n'a jamais entendu qu'il y ait quelqu'un qui a ouvert les yeux d'un aveugle né. Lui, il se renseignait. À cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Donc, est-ce que tu en as entendu parler? Mm-hmm. Est-ce que tu en as entendu parler, et personne n'en avait entendu parler, sauf au moment où Jésus est venu et il a apporté cette réponse. Et moi, quand je suis sorti pour annoncer l'évangile, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient posé des questions. Ben, c'était pas des questions d'aveugles nés, mais non. Il y avait d'autres questions.
Mmh. Sur la foi, et sur Dieu.
Sur des tas et des tas de choses. Et quand vous sortirez, vous allez voir que les gens ont plein de questions. Mmh. Ils en ont plein. Ils en ont vraiment plein. Et vous allez être la réponse à ce moment-là. Donc la troisième chose, c'est vraiment de vous dire qu'il y a un monde qui est là, qui soupire après cette révélation des fils de Dieu. Et ils vous attendent, tout simplement. Mm-hmm. Une dernière chose que je voudrais dire pour encourager, c'est que à chaque fois que je suis sorti, peut-être une personne sur dix, une personne, et je suis même pas sûr, m'a envoyé bouler. Non mais
envoyé balader.
Voilà, c'est ça, m'a envoyé balader. Ça veut dire qu'il y en avait neuf autres qui étaient prêts, mm-hmm. qui étaient vraiment prêts. Les gens sont disponibles. Personne va vous taper dessus quand vous annoncez l'évangile. Mm-hmm. C'est une bonne nouvelle. Donc faites-le. Et voilà. Et puis une dernière chose, je sais que le temps passe vite, mais je voulais vous encourager. J'ai pas le livre Au cœur du monde. Non mais Au cœur du monde, Jérémy Sondré l'a mis en place plein de supports pour l'évangélisation. Et Au cœur du monde,
365
jours au cœur du monde, l'émission Go que vous pouvez voir sur YouTube, vous pouvez voir la famille des évangélistes, l'armée des évangélistes, evangelist.com. Allez voir toutes ces choses-là, c'est des supports pour vous aider à aller évangéliser. Mais commencez d'abord à le faire.
Amen. Yeah. Merci beaucoup, Gwen. Donc, vous avez compris, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie. L'envie va venir en le faisant parce que la compassion va venir, c'est ça?
Exactement.
Parfait. Si vous voulez nous envoyer vos questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, nous parlions de la réalité de l'enfer tout à l'heure dans la discussion. Aujourd'hui, tu nous présentes un livre qui va nous en parler très clairement, 23 minutes en enfer de Bill Wise. On regarde la vidéo de présentation.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com.
Alors, ce livre ici, 23 minutes en enfer de Bill Wise, il est disponible à ma boutique chrétienne à 19 euros. C'est un livre, en fait, qui raconte l'histoire de ce monsieur qui, au départ, était un homme ordinaire, un chrétien de longue date. Je pense qu'il avait 20 ans de vie chrétienne déjà à ce moment-là. Il travaillait comme courtier immobilier. Il avait vraiment une vie ordinaire avec son épouse. Il revenait de l'église, c'était un dimanche. Et le soir, il est allé dormir. Et pendant la nuit, il se réveille à 3h du matin. Et en se levant, je ne sais pas, pour boire de l'eau, peu importe, il dit juste qu'il s'est levé. Et il a eu une expérience, qu'on appellerait une vision. Une expérience hors de son corps. Il n'était pas malade, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une mort imminente. C'était vraiment, il était en bonne santé, mais il a eu une expérience où est-ce que il s'est senti sortir de son corps et il a passé 23 minutes en enfer. En fait, c'est parce que sa femme s'est réveillée à 3h23. C'est comme ça que le titre 23 minutes en enfer. Mm-hmm. Et pendant ces 23 minutes, il a expérimenté c'est quoi être en enfer. Donc pendant ce temps-là, il n'avait pas conscience qu'il était chrétien. Donc il avait vraiment expérimenté c'est quoi la vie d'un perdu, des personnes à qui, si nous ne parlons pas, qu'est-ce qui leur arrive. Et donc, il a décrit un peu le livre et il y a beaucoup de références bibliques dans le livre. Donc, c'est pas des histoires de quelqu'un comme ça, là, qui a farfelu et tout ça. C'est vraiment, il y a des supports bibliques, des versets qui montrent un peu, qui décrivent des brides de qu'est-ce qui se passe en enfer. On a parlé de l'homme riche qui est désespéré, qui a soif, qui vit des tourments. Et donc, il a expérimenté tout ça. Il a vu des démons. Il a vu ces êtres-là qui le tourmentaient, qui le frappaient, le torturaient et tout ça. Et il a vécu. Et en fait, ce qu'il dit, c'était la chose la plus dure, c'était l'idée de la souffrance continue et le manque d'espoir. En fait, c'est que c'est pour toujours, oui. Ça finira jamais. Il y a pas de répit, tu peux pas te coucher, tu peux pas oublier pendant 2 secondes. C'est continuellement une souffrance extrême. Mm-hmm. Et déjà, au bout d'un moment, Jésus est venu vers lui. Et il l'a ramené, il s'est vu revenir dans son corps. Mm-hmm. Et il criait très fort. Et c'est comme ça que sa femme s'est réveillée. Elle est venue, elle a prié pour lui et tout ça. Mais ce qu'il dit du livre, en fait, dans ses témoignages, il y a beaucoup de... Même sur YouTube, vous trouvez des extraits, mm-hmm. des conférences qu'il fait. Et ce qu'il dit, c'est que le but n'est pas d'expliquer c'est quoi l'enfer. Parce qu'il dit qu'ils sont juste curieux, mm-hmm. qu'ils veulent voir c'est quoi. C'est pas un livre pour la curiosité, pour dire, OK, l'enfer, il est comment, les cellules sont comment, les démons mm-hmm. sont comment. C'est de réveiller les gens que c'est une réalité. C'est une réalité que les gens qui ne connaissent pas Dieu iront en enfer. Mm-hmm. Et il faut présenter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et, donc le livre, c'est ça qu'il veut faire. Et ce qu'il a, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté une de ses conférences qui disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je suis une bonne personne, j'irai au ciel. Ouais. Et que si Dieu est bon, Dieu va me permettre d'aller au ciel. Et si votre Dieu que vous présentez, parce que les gens peuvent se sentir gênés de parler de l'enfer à des non-croyants, en pensant que si ton Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il va me laisser aller en enfer? Je suis une bonne personne. Mm-hmm. Il a fait 2 illustrations que je veux vraiment mentionner. Je sais qu'on court après le temps. Il dit, c'est comme si vous allez chez la maison la plus grande, de l'homme le plus riche de votre ville, et vous cognez à sa porte et vous dites, je veux venir habiter chez toi. Il va te dire, non, je ne mm-hmm. te connais pas. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas venir habiter chez moi, mais c'est parce qu'il faut que tu connaisses la personne. Tu ne peux pas venir chez moi, je suis une bonne personne, mm-hmm. est-ce que je peux rentrer chez toi? Non, si je te connais, Michael vient chez moi. Oui, je vais l'ouvrir la porte parce que je le connais. Et c'est la même chose. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas de relation mm-hmm. avec Dieu. Et c'est vraiment ça aussi qu'il faut penser quand vous présentez cet évangile pour dire aux gens, non, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il Amen. Faut que tu le connaisses. C'est le seul chemin qui mène au Père. Mm-hmm. Et aussi, l'autre perception des choses, c'est que si je fais des bonnes choses, j'irai au ciel. Mais encore une fois, il dit on est sauvé par grâce, au moyen de la foi. Donc il dit, c'est comme si je te dis, pour venir chez moi, il faut que tu prennes l'autoroute 10, sors à la sortie 22, tourne à droite. Et puis tu dis, non, j'ai envie de prendre l'autoroute 20, et puis je sortirai à la sortie 15, et puis je tournerai à gauche. Parce que tous les chemins mènent. Mais non, mm-hmm. je t'ai donné le chemin. Oui. Et Dieu nous a présenté le chemin. Alors le livre, c'est pas vraiment un livre pour... oui, ça explique les tourments de l'enfer, ça explique tout ce côté physique de souffrance, mm-hmm. mais ça vient vraiment présenter un témoignage et dire que l'enfer existe pour de vrai. Si ça peut vous conscientiser pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la capacité comme... Gwen l'a dit, donne-moi cette compassion, donne-moi cet amour, je vais t'obéir et je vais parler de Dieu autour de moi. Mm. Le livre 23 minutes en enfer de Bill Weiss.
Merci Nadine. Moi personnellement, je l'ai lu, tu l'as lu aussi, je crois, chérie.
Oui, parce que... et notre bien-aimé, le frère Pierre à Paris, s'est converti à travers ce livre.
Cospiel ?
Non, Pierre. Pierre, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son
nom. Je ne sais pas, ok, Pierre, d'accord. On est content que Pierre se soit converti grâce à ce livre. Mais c'est un livre qui est vraiment excellent parce que c'est vrai que ça réveille vraiment une conscience. C'est un livre qu'on peut même aussi offrir à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut aussi amener mm-hmm. des vraies prises mm-hmm. de conscience. C'est un outil à la fois pour être poussé à évangéliser, mm-hmm. mais aussi pour se donner au Seigneur. Merci beaucoup, Nadine.
On continue maintenant avec la rubrique témoignage. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'un homme qui a été convaincu de péché en regardant une émission sur MCI TV.
Exactement. Et puis, il nous explique qu'il est né dans une famille qui n'était pas chrétienne, tout simplement. Mais il a quand même connu Jésus par sa grand-mère quand il avait 4 ans. Et il dit que son enfance était vraiment difficile. Et il avait espoir, il savait que Jésus ne l'abandonnerait pas, mais son enfance était difficile. Mais tout au long de sa vie, en fait, quand il a grandi, mais il a vraiment sombré dans l'obscurité et il dit que sa vie chrétienne était largement ouverte au diable. Et il avait des péchés vraiment qui le minaient, notamment la pornographie et la masturbation. Et là, il dit qu'il désirait vraiment les choses des ténèbres et qu'il pensait juste à ça. Je pensais sans cesse à rencontrer le diable et lui offrir tout ce qu'il me demandait, sauf sacrifice humain. Juste pour satisfaire mes désirs charnels, j'étais prêt à tout. Tout presque, même si je n'ai pas pu le rencontrer physiquement, mon cœur l'avait déjà fait. Donc vraiment, il était dans une attitude où, malgré ce Jésus dont on lui avait parlé, mais vraiment, il avait ouvert sa vie à l'ennemi et dit qu'il y a deux voix qui résonnaient en lui à ce moment-là. Il y avait une voix qui lui disait de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible, d'avoir une vie de prière. Mais il y avait une autre voix qui lui disait tout à fait le contraire, l'opposé, qui lui disait vraiment de plonger dans ses désirs, d'être à fond, en fait, dans la vie qu'il avait menée jusque-là. Il dit qu'il était vraiment complètement perdu et ça se tiraillait tellement avec ses deux voix dans son cœur que vraiment, il se sentait vraiment perdu et égaré. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur des prédications sur YouTube. D'abord, celle de pasteur Marcelo, il dit, sur l'impudicité, qui a vraiment ouvert sa conscience. Puis, il est aussi arrivé sur le site de EMCI TV parce qu'il y avait la voix qui lui disait d'écouter... de méditer la parole, mais il n'arrivait juste pas à lire la Bible. Et il a téléchargé l'application EMCI, et là, il a téléchargé la Bible audio. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écouter non seulement la Bible audio, mais aussi des émissions. Et il dit qu'il y a un vrai combat qui s'est engagé dans sa vie, parce que chaque fois, il écoutait les émissions, il écoutait la Bible, mais il lâchait aussi tout le temps, parce qu'il y avait vraiment comme une force qui voulait le pousser.
Ben oui, c'est clair.
Pardon. À continuer, en fait, la vie qu'il avait au monde. Et puis, il dit, il y a une voix qu'il a entendue qui lui a dit de continuer à écouter nos émissions. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et une fois qu'il nous a écoutés, il s'est rendu compte de ses péchés. S'est rendu compte de son état spirituel, en fait. Il a avoué ses péchés à Dieu et il a demandé pardon. Et il dit que chaque fois qu'il priait, il revoyait ses péchés en image. Et vraiment, ça le troublait beaucoup. Et un jour, il s'est connecté sur notre site. Il y avait Prière Inspirée qui passait. Et il dit que là, j'ai reçu complètement la transformation, la vraie transformation par l'Esprit Saint. Je sentais la soif divine de la parole. Avant, je priais 10 minutes et pour moi, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, je suis restaurée. J'ai retrouvé le vrai chemin, la vie chrétienne en Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je prie en langue aujourd'hui tellement les mots me manquent et faire 50 minutes dans la prière, c'est vraiment peu pour moi. Maintenant, je ne passe plus une journée sans écouter la parole de Dieu. J'ai tellement soif de sa parole. Et il dit qu'il a abandonné tout ce qui est pornographie, masturbation, toutes ces choses ont quitté sa vie.
Wow.
Et vraiment, on rend gloire à Dieu parce que
Amen.
Voilà quelqu'un que le Seigneur a touché et dont la vie a été radicalement changée.
Amen, Amen. 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 MCI TV peut être un excellent outil d'évangélisation. Oui, c'est peut-être pas forcément la première approche, mais une personne à qui on a déjà parlé du Seigneur, on peut lui transmettre le lien du site ou la chaîne, l'application, peu importe. Et c'est sûr, on a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été sauvées au travers de cette chaîne parce que l'évangile y est prêché, tout simplement. C'est pas parce qu'elle est meilleure que les autres, c'est parce que l'évangile y est prêché. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile et ils cherchent des endroits où ils peuvent l'entendre. Et EMCI TV, si c'est un canal, ben, gloire à Dieu pour ça. On se réjouit vraiment pour l'âme de cet homme. Et on va vous quitter avec une citation d'Heidi Becker. C'est notre citation aujourd'hui qui a dit « Crois pour une multitude, mais arrête-toi pour une âme ». Croire pour une multitude, c'est certain, on croit pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Mais on commence par s'arrêter pour une âme. Et à la maison, je vous encourage. Aujourd'hui, vous avez entendu cette émission, vous n'avez peut-être pas envie d'aller évangéliser encore, mais vous savez qu'il s'est passé quelque chose en vous. Je vous lance le défi aujourd'hui de vous arrêter pour une âme, juste une âme dans votre journée. Vous vous arrêtez pour lui prêcher la bonne nouvelle de l'évangile et vous allez laisser monter ce désir, cette compassion dans votre cœur pour pouvoir prêcher l'évangile à d'autres personnes dans les jours suivants. Merci à vous tous pour cette formidable émission. Ça nous a nous-mêmes énormément édifiés. Nous nous retrouvons demain. Notre thème sera « Sort de la rébellion » et nous aurons une invitée, Heidi Berceau, qui sera là pour parler de la rébellion chez les ados dans la rubrique « Famille ». Je vous souhaite une belle journée et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.